www.libradio.org. La station debout.
Alors nous sommes dimanche 23 mai 2021. Le 10 mai passé, la décision était rendue par le tribunal d'Evry. Les firmes productrices de l'agent Orange ne seront pas inquiétées. La plainte de Madame Trantona, si je prononce bien, Tom, tu vas me redire, est jugée irrecevable.
Ouais, c'est bon.
C'est ça, Trantona.
C'est ça, c'est Trantona, oui.
Trantona est jugée irrecevable. Alors nous parlons aujourd'hui de l'agent Orange, un herbicide puissant, c'est surtout un poison dont l'épandage est toujours extrêmement lourd de conséquences au Vietnam, dont la faune et la flore ont été extrêmement durement touchées, les humains inclus. Et ces humains payent encore aujourd'hui, alors que c'est la quatrième génération, puisqu'on parle des années 60 jusqu'au début, tout début des années 70, payent un très lourd tribut, avec des enfants qui sont lourdement handicapés et avec de très gros problèmes de santé. Bonjour Tom, tu fais partie du collectif Vietnam Dioxine qui justement mène cette lutte pour que l'on fasse reconnaître une bonne fois pour toutes ce qu'il en a été au Vietnam avec l'agent Orange, l'épandage de l'agent Orange, et qui est à la base de ce procès des multinationales productrices de l'agent Orange. Alors le site internet c'est www.vietnamdioxine.org. Et on l'a dit, le 10 mai passé, il y a eu cette décision terrible. Voudrais-tu nous commenter en quelques mots cette décision ? Et ensuite, on va repartir de zéro pour bien comprendre les enjeux.
Suite au plaidoirie du 25 janvier dernier, on attendait depuis des mois la décision du tribunal qui a été rendue là le lundi 10 mai dernier. Donc ça va bientôt faire une semaine. De toute façon, pour être clair, on s'attendait à ce que soit Trantona gagne le procès et que les firmes adverses fassent appel, ou que finalement que ce soit les fabricants de l'agent Orange qui remportent le procès. Et dans tous les cas, c'était à peu près sûr que Trantona et ses avocats allaient faire appel. Donc en l'occurrence, la décision a été défavorable puisque le tribunal d'Evry a jugé donc irrecevable les demandes de Trantona. Pour les spécialistes en droit, ça s'est fait avec le principe de l'unité de juridiction, c'est-à-dire que le tribunal a estimé que les entreprises qui avaient fabriqué ou commercialisé l'agent Orange avaient obéi finalement au gouvernement des États-Unis. Et donc en fait, qu'elles n'étaient pas responsables et un tribunal français n'est pas compétent pour attaquer finalement l'État des États-Unis ou une émanation de l'État des États-Unis. Donc c'est pour ça en fait que le tribunal ne s'est pas déclaré compétent. Ouais. Et par rapport à ça, les avocats de Trantona qui sont Maître Bourdon, Repolt et Lefebvre ont dit effectivement que c'était une interprétation du droit qui n'était pas du tout moderne et que c'était pas du tout, en tout cas en accord avec certains cas de jurisprudence ou certaines décisions assez récentes. Donc voilà. Donc suite à ça, Trantona et ses avocats ont annoncé qu'ils allaient faire appel de cette décision. Donc c'est encore un combat qui peut durer plusieurs années, puisque pour aller jusqu'à la cour d'appel, il y a encore un certain chemin. Et donc ils ont jusqu'à mi-juin pour déposer l'appel. Et après, il y aura un certain nombre de procédures pour arriver jusqu'au plaidoirie d'appel, si on peut dire ça. Quoi.
Voilà. Maintenant que l'on sait l'actualité de cette problématique, on va repartir à zéro pour bien comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Alors, pour commencer, on le rappelle, le site internet, c'est www.vietnamdioxine.org. Vous êtes également présent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, j'imagine également Facebook.
C'est ça.
Voilà, donc Vietnam Dioxine, et on vous trouve. Alors, qui êtes-vous et pourquoi faire ce collectif ?
Alors, donc, je suis membre du collectif Vietnam Dioxine. C'est un collectif qui existe donc depuis 2004, qui a été créé par des personnes de la diaspora vietnamienne en France. Initialement, c'était des personnes qui avaient fait un projet humanitaire au Vietnam et qui avaient pris conscience en fait qu'il y avait un certain nombre de victimes de l'agent Orange au Vietnam. Le premier objectif du collectif, c'était de sensibiliser finalement sur sur Agent Orange, et finalement c'était surtout de la solidarité envers les victimes, puisqu'à l'époque il n'y avait pas voilà de procédure judiciaire. Puis très vite il y a eu des procédures judiciaires, notamment par ce qu'on appelle la VAVA, l'association des victimes vietnamiennes de Agent Orange, qu'on avait porté plainte aux États-Unis, mais qui ont été déboutées par la Cour suprême dans les années 2008-2009. Ça c'était un premier épisode judiciaire. Donc le collectif a sensibilisé par rapport à ça. Et puis voilà, très récemment en 2014, Trentonia, qui est une victime française de Agent Orange, comme on disait tout à l'heure, qui a aujourd'hui 79 ans, aidée de Maître Bourdon et puis d'autres alliés comme André Bouny. Donc Trentonia, elle a décidé en 2014 d'intenter un procès contre une petite vingtaine de multinationales, d'entreprises qui ont fabriqué ou commercialisé l'agent orange. Donc finalement le but du collectif aujourd'hui est de soutenir Trentonia et puis plus largement toujours de sensibiliser sur l'agent orange et faire en sorte qu'on en entende parler à la fois dans les médias, sur les réseaux sociaux, vous l'avez dit, et puis aussi finalement dans l'opinion publique, en créant des ponts aussi avec d'autres luttes qui parfois ont des mécanismes, des modes d'action similaires, en tout cas où tout le monde aurait à gagner à discuter puis à agir, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Alors effectivement, en Suisse, on est de plus en plus sensibilisé à cela, également parce qu'une initiative à court concernant l'usage ou le non-usage de pesticides, donc ça entre un petit peu également sur cette thématique-là. Avant que l'on en arrive à te questionner sur la figure tutélaire de Trentonia, voudrais-tu nous dire en quoi, qu'est-ce que c'est que l'agent orange, qu'est-ce qu'on en a fait et quelles en sont les conséquences ?
Oui, tout à fait. Alors l'agent orange, c'est un défoliant. Donc en fait, le but premier de l'agent orange, c'était de détruire les forêts du sud du Vietnam. Détruire les forêts parce que à l'époque il y avait des personnes résistantes qui se cachaient donc dans les forêts, et c'était pendant la guerre du Vietnam. Donc en fait dès 1961 il y a eu ce qu'on appelle des épandages de l'agent orange pour détruire ces forêts là et en fait dans l'agent orange il y a ce qu'on appelle la dioxine. La dioxine c'est un déchet de fabrication. Donc en fait ils n'étaient pas 100% obligés de produire de l'agent orange avec de la dioxine. Et en fait, donc déjà, en termes de grandeur, il y a eu plus de 80 millions de litres de cet herbicide qui ont été déversés. Il y a eu plus de 2 500 000 hectares qui ont été contaminés. Et ces épandages, ils ont détruit environ 20% des forêts du sud du Vietnam et pollué 400 000 hectares de terres agricoles. Voilà. Donc, sans compter effectivement la destruction d'hectares de forêts tropicales et puis aussi la disparition de la faune abondante. Pardon. Et en fait, en termes de conséquences humaines, on estime, l'association des victimes vietnamiennes de l'agent orange estime à plus de 3 millions le nombre de personnes victimes de l'agent orange. Et puis aujourd'hui, les conséquences sont visibles toujours en fait dans la troisième et quatrième génération, donc parmi les personnes descendantes, puisque c'est la dioxine, ça attaque finalement les nouveau-nés avec des malformations, des maladies graves, etc. Et donc on estime qu'il y a des centaines de milliers d'enfants aujourd'hui qui vivent avec ces malformations, sans compter tous les fausses couches, les morts-nés, et aussi les naissances prématurées dans les régions qu'on appelle les hotspots, donc les régions les plus touchées. C'est un petit éventail en tout cas de conséquences de cet âge orange. Et aujourd'hui, l'idée c'est de prouver, et c'est aux avocats de le faire, et c'est aussi à la science, que finalement, les entreprises, elles connaissaient la toxicité de la dioxine, parce qu'en fait, elles ont répondu donc à un appel d'offres, et que cet appel d'offres, effectivement, c'était pour produire de l'agent orange, mais ils ont voulu en fait produire plus vite et aussi que ça soit plus rentable, et donc ils ont accéléré les cadences, et en fait, en accélérant ces cadences et en faisant ce choix, ils ont dû créer de la dioxine alors qu'ils savaient depuis quelques décennies déjà, parce qu'il y avait déjà des accidents dans les usines de fabrication, que cette dioxine était toxique. Et aujourd'hui, la dioxine, c'est un des plus gros poisons au monde. Cette dioxine de Céveso, qui a notamment donné le nom au site Céveso, c'est un poison. C'est quelque chose qui est extrêmement toxique.
Voilà, et en Suisse, de nouveau, ça nous parle parce que Seveso, ça nous parle, c'est tout proche. C'est en Italie du Nord, ça a touché par ailleurs, évidemment, la Suisse, lorsqu'il y a eu cette fuite de dioxine, et que des entreprises suisses y sont impliquées. Donc voilà en quoi la Suisse est également touchée par ceci. Donc on en est, j'espère en tout cas, le plus nombreux possible à en être conscient. Arrêtons-nous quelques instants sur la figure de Trentonia, si tu voulais bien, parce qu'elle-même, effectivement, tu l'as dit, donc elle a 79 ans actuellement. Elle était sur la piste aux chimines comme résistante à l'impérialisme USA à l'époque de la guerre du Vietnam. Elle a même, si je me trompe pas, perdu sa fille à ce moment-là, du fait de ses épandages, puisqu'elle est née, si j'ai bien compris, durement touchée, durement handicapée. Voilà, voudrais-tu nous dire quelques mots de Trentonia ?
Tout à fait. Alors effectivement, Trentonia, lors en tout cas des épandages, elle était journaliste et agent de liaison. J'entends parfois dans les médias que voilà, elle était guerrière, mais en fait elle était journaliste et en fait elle faisait des reportages sur le front. Donc aujourd'hui effectivement Trentonia a 79 ans, elle est malade, elle a un certain nombre de maladies, notamment elle a un diabète, elle a la tuberculose, elle a d'autres maladies qui sont répertoriées parmi les maladies de l'âge orange par les États-Unis, puisque les États-Unis aujourd'hui indemnisent leurs vétérans donc aux États-Unis, donc elle coche un certain nombre de maladies, et donc effectivement ça fait depuis 2014 qu'elle se bat contre ces fabricants de l'orange. C'est un peu un combat David contre Goliath, et puis elle nous raconte souvent effectivement que en tout cas sa mère luttait contre l'armée française durant la guerre d'indépendance. Elle après effectivement elle a dû lutter contre les États-Unis durant cette guerre du Vietnam, puisqu'elle avait aussi rejoint le Front National de Libération du Sud-Vietnam en tant qu'agent de liaison. Et c'est en fait en 1966 en fait qu'elle a été touchée par un épandage d'agent orange dans la région de Kuchi, qui est en fait au nord de Saigon aujourd'hui, en Chineville. Et puis elle raconte ça en tout cas dans son autobiographie, le livre qui s'appelle « Ma terre empoisonnée », qui a été coécrit avec Philippe Broussard aux éditions Stock, je crois. Puis elle raconte que il y avait une pluie gluante qui dégoulinait sur ses épaules et qui se plaquait sur sa peau. Et puis que directement après, elle avait une quinte de toux qui lui prenait, elle s'est lavée, mais finalement elle a oublié assez vite, puisque à l'époque personne savait vraiment qu'est-ce que c'était que cette pluie, cet âge orange, et quelles allaient être les conséquences, quoi. Ouais. Et effectivement, elle a perdu effectivement sa fille aînée qui s'appelle Elbet Eye, qui était née en 68, et en fait qui a été atteinte d'une malformation cardiaque qu'on appelle la tétralogie de Fallot, qui est une maladie assez rare. Et puis sa fille est décédée à l'âge de 17 mois. Voilà. Et puis elle a deux autres filles qui sont nées un peu plus tard, qui elles aussi sont atteintes de malformation. D'autres types de maladies, notamment l'alpha-thalassémie, qui est une maladie assez typique des victimes de l'âge orange, quoi. Donc voilà, en tout cas pour les conséquences qui la touchent directement, elle et puis ses filles, quoi.
Ouais, donc on l'entend, les conséquences sont effectivement extrêmement lourdes et elles sont tout à fait actuelles, puisque on l'a dit, tu l'as dit, on en est à la quatrième génération d'enfants qui continuent d'être touchés, de naître mal formés et avec de graves malformations. Voilà, est-ce que selon toi, il n'y aurait pas également une nouvelle notion qui devrait surgir dans le droit, qui serait celui d'écocide ?
Ouais, tout à fait. Effectivement, déjà, c'est Trentonia et ses avocats qui vont faire appel. Nous, on n'est pas partie civile, nous, on soutient Trentonia, mais c'est vraiment elle qui doit gérer la partie juridique. Et effectivement, c'est un combat qui est plus large qu'elle. Alors, à différents égards, première chose, c'est que le but, c'est de créer un cas de jurisprudence, parce que elle porte plainte donc au civil, donc c'est-à-dire que elle demande des dédommagements pour elle et des dédommagements pour ses maladies et puis pour son préjudice moral. Mais le but, c'est de se battre pour toutes les victimes de l'orange, pour que demain une victime de l'orange, qu'elle soit en France, au Vietnam ou ailleurs, puisse appuyer sur une condamnation de ses fabricants. Voilà, ça c'est pour vraiment le côté Trintonia, ça ne bat pas que pour elle, mais finalement pour tous les victimes.
Tout à fait.
Et puis, sur l'écocide, c'est effectivement hyper important, parce qu'en fait, le concept d'écocide est né avec le drame de l'âge orange. Donc, l'âge orange, c'est pas le premier écocide, parce qu'il y a eu plein d'événements avant. On pense à la colonisation, à l'esclavage, à plein d'autres événements qui peuvent être considérés aujourd'hui comme des écocides. Mais aujourd'hui, il y a effectivement pas mal de personnes qui se battent pour que l'écocide soit reconnu comme un crime. C'est le cas dans certains pays. L'écocide est reconnu notamment au Vietnam. C'est-à-dire que des dommages à l'environnement en situation de guerre ou de paix peuvent être punis. Mais dans aujourd'hui, l'écocide, non, c'est pas du tout reconnu. Et notamment, il y en a qui essaient de en fait, en France. En France, tout à l'heure, vous avez parlé d'assemblée citoyenne. On avait la Convention citoyenne pour le climat en France, qui avait une de ces mesures qui concernait la reconnaissance de crime d'écocide. C'est un crime qui a totalement été, lessivé, réduit à un concept vide et inutile par notre gouvernement Macron et puis par les députés qui ont voté cette un espèce de délit d'écocide en fait qui est même une régression en fait par rapport à la charte de l'environnement selon certains avocats hein. Aujourd'hui c'est quelque chose qui pourrait pas du tout être utilisé en tout cas comme un arsenal pour lutter contre les entreprises qui créeraient des écocides en France, donc ça c'est tellement inutile. Et il y en a d'autres qui essaient effectivement de que ça soit reconnu soit à l'échelle européenne à travers grâce à la commission pour la commission et au Parlement, et aussi à l'échelle internationale peut-être la coller, je sais pas, à tout ce qui concerne le crime de génocide à l'échelle de la Cour pénale internationale. Mais ça, c'est des choses qui sont en cours. Et je crois qu'il y a des campagnes un peu transnationales qui essayent de pousser ça à l'échelle internationale. Mais il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment sur ce concept-là, qui est intéressant. Et en tout cas, ça peut être une arme supplémentaire pour lutter effectivement contre les différents désastres environnementaux qui sont créés par ce capitalisme vert, enfin ce capitalisme industriel et aussi finalement par ce capitalisme vert, hein, parce que
bien sûr.
Et aussi pour lutter contre l'agissement de certains pays aussi à travers le monde, notamment dans les pays qu'on dit du sud global où il y a quand même beaucoup d'écocides qui sont perpétrés par les États et par les entreprises, quoi.
Ouais, puis on invite alors toutes les personnes qui vont écouter ces propos à vous suivre, hein, notamment sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce qu'effectivement, dans le collectif Vietnam Dioxine, vous communiquez beaucoup et vous êtes solidaire d'autres groupes, disons, similaires, analogues d'une certaine manière, dans cette lutte contre les écocides qui ont cours, comme tu l'as dit, dans une partie du monde qui est effectivement déjà pas mal touchée, quoi. Tom, j'aimerais déjà te remercier beaucoup d'avoir pris du temps et puis surtout avec à l'aune de ce verdict extrêmement dur. Et j'aimerais en terminer par te demander, voilà, comment est-ce que vous l'avez pris? Quel est votre état d'esprit actuellement? J'imagine que vous êtes toutes et tous touchés, mais que le combat continue. Ça, ce sera pour la toute fin. Mais j'aurais voulu, avant, te questionner sur, et maintenant, un agenda, des actions à venir. Est-ce que, est-ce que vous envisagez d'ores et déjà des prochaines actions?
On a une grosse action samedi dernier, qui était le samedi 15 mai, puisqu'en fait c'était le jour de la marche contre Monsanto et l'agrochimie. C'était la 9e édition et il y avait en France surtout une quinzaine de villes qui sont mobilisées. Donc on a fait une marche à Paris avec environ 1000 personnes pour protester contre les agissements de Monsanto. On a beaucoup parlé de justice environnementale. Vous en avez parlé tout à l'heure, on a essayé de faire des alliances en tout cas avec d'autres collectifs, par exemple qui luttent contre le chlordécone en Guadeloupe aux Antilles et en Martinique. Et donc ça c'était un moment important aussi pour montrer qu'on était mécontents donc après la décision du tribunal. Donc ça c'était l'événement passé qui nous a beaucoup occupé en tout cas pour ces derniers mois. Et puis la prochaine étape c'est il y aura l'appel qui va être enclenché d'ici a priori mi-juin, et puis cet été aussi on aura l'anniversaire, en tout cas enfin, l'anniversaire, le triste anniversaire des 60 ans du premier épandage de l'âge orange, donc qui aura lieu donc le 10 août. Et dans ce cadre on veut faire en fait un événement un peu international, transnational, pour manifester notre solidarité aux victimes de l'âge orange. Donc on a envie que ça soit en France, mais aussi dans les pays où il y a différents différentes victimes, différentes personnes militantes, bah, évidemment au Vietnam, mais on pense aussi en Allemagne où on a des personnes dans le collectif, pourquoi pas en Suisse, voilà, dans différents pays. Les États-Unis, on a aussi des personnes qui peuvent se mobiliser. Donc ça, ce sera une grosse étape. Et puis après, on va toujours, en tout cas, bah, essayer d'intervenir finalement dans les médias, dans des événements pour sensibiliser et toujours en parler, parce que c'est important, en tout cas, que médiatiquement, bah, le combat de Trentonia puisse exister et le combat de l'Orange puisse exister, parce qu'on là, il y a beaucoup de médiatisation et c'est bien, hein, le 25 janvier et puis le 10 mai, mais c'est avant, faut savoir que durant les 6 dernières années, c'était assez difficile, en tout cas pour Trentonia, parce que on en parlait assez peu, que ce soit en France ou à l'international, et donc là, on a envie vraiment de continuer sur cette lancée pour rien lâcher, parce qu'en fait, les entreprises, je pense qu'elles ont plutôt peur, en tout cas, que ça soit médiatisé, et ce qui n'était pas le cas au début, donc elles étaient plutôt tranquilles. Et durant les plaidoiries, elles ont reproché en fait à Trentonia d'avoir voulu que ce soit un procès historique et un procès médiatique, en disant, bah voilà, finalement le procès il est déjà joué dans les médias, et bah nous on va continuer en tout cas pour enfoncer le clou. Et notamment, bah il y a pas longtemps, on est intervenu à l'Assemblée générale de Bayer avec un collectif allemand qui s'appelle CBG. Donc voilà, on va continuer en tout cas pour manifester en tout cas notre solidarité avec une loge orange et puis contre les fabricants aussi de ce poison.
Ouais. Et c'est-à-dire que votre état d'esprit, il oscille entre la claque, parce qu'effectivement, on s'attendait vraiment pas à ça, et en même temps, une lame de fond que l'on n'arrêtera pas, parce que ça fait déjà tellement d'années et que vous êtes ensemble et résolus à ce que les choses avancent, à ce que les choses changent.
Ouais, tout à fait. Ouais. Non, c'est vrai que le jour J, je pense qu'on était tous dégoûtés, déçus, mais comme dit Trentonia, on peut être déçu, il faut être déçu, mais il faut pas être triste, parce que c'est vrai que Trentonia, elle a quand même réussi à faire revivre le drame de Valjean-Orange, parce que après le procès là de 2009, où finalement les victimes d'Yémen avaient été déboutées par la Cour suprême des États-Unis, ça c'était vraiment un gros choc, parce que ça veut dire que plus jamais un procès pourrait être attenté aux États-Unis par les victimes de Valjean-Orange. Donc ça, c'était ce procès en France, c'est un peu le procès de la dernière chance, mais c'est loin d'être fini, parce qu'il y a effectivement il y aura encore un appel, donc. Et puis, de toute façon, on avait prévu, nous, dans notre scénario, une possibilité où les fabricants gagneraient cette première étape. Mais c'est comme on dit, ils ont gagné une bataille, mais ils sont loin d'avoir gagné la guerre. Donc, surtout qu'ils se basent sur des faits qui sont... justement, ils se basent pas sur des faits. Ils se basent sur des mensonges, en fait. C'est-à-dire que les entreprises avaient obéi au gouvernement des États-Unis. Il y a eu aussi des termes qui ont été employés durant la plaidoirie qui étaient de la légitime défense. Il ne faut pas oublier quand même que les États-Unis sont intervenus et c'était de l'ingérence au Vietnam et que ce n'est pas le contraire. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites et personnellement, je ne suis pas sûr que ça passe tout le temps devant tous les juges. Donc c'est pour ça que finalement, ce deuxième procès, je pense qu'on remet un peu les pendules à zéro. Et c'est pour ça qu'on peut espérer que la justice française fasse son travail. Il y a une citation que si j'aime bien, c'est là le droit évolue, mais ce qui n'est pas juste n'est pas légal. Et c'est aussi à la justice de faire en sorte que ce genre de crime puisse être puni.
Oui, la justice française et pourquoi pas la justice internationale, puisque comme on l'a dit, c'est quelque chose qui a touché et qui touche encore de nombreux pays dans le monde.
Mais malheureusement, les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de la Cour pénale internationale.
Ouais.
L'agent Orange, évidemment, c'est un des agents célèbres, mais en fait, les guerres et aidés par l'économie ont créé beaucoup d'écocides. Je pense par exemple aux mines antipersonnelles qui ont fait aussi beaucoup de dégâts et qui ont ravagé des zones entières qui restent. C'est aujourd'hui impraticable.
Tout à fait, il y a des terres agraires qui ont été confisquées de cette manière-là.
Exactement. Est-ce que vous avez des contacts avec tous les autres mouvements qui luttent un peu sur ces problématiques-là pour créer quelque part un grand mouvement international ?
Le Laos, c'est le pays où il y a eu le plus de mines antipersonnelles et il y a eu des bombardements qui ont été vraiment... extrêmement important et on en parle assez peu, ça c'est important. Effectivement, il n'y a pas longtemps, on est intervenu à une conférence où il y avait des personnes qui luttaient contre le chlordécone, Il était aussi question des Bourouges dans le sud de la France, des algues vertes en Bretagne, de ce qui se passe en Guyane par rapport au projet Montagne d'Or. Je sais pas si vous avez entendu parler. Donc effectivement, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les mécanismes de défense des entreprises, des entités qui sont parfois des États, par rapport à ces écocides, sont souvent les mêmes en fait. Et il y a souvent un renversement de la charge où on dit que finalement, les victimes, il n'y a pas de relation de causalité par exemple, entre la maladie des victimes et puis un produit qui serait incriminé. Effectivement, je pense, il y avait un film il y a pas longtemps qui s'appelle Dark Waters qui relatait le scandale du téflon aux États-Unis. Et en fait, on retrouve souvent les mêmes mécanismes, les mêmes tergiversations de la part d'entreprises, etc. C'est important en tout cas de partager des voies d'action et de voir ce qui peut être le plus efficace pour discuter, mais parce que voilà, aujourd'hui on est de plus en plus isolé et c'est effectivement pas forcément simple, quoi.
Heureusement, on peut dire qu'on est dans le sens de l'histoire avec toutes ces convergences et notamment, par chez nous, la Grève pour l'avenir, hein, qui est une coalition qui rejoint la Grève pour le climat, mais également les écoféministes, etc. Et que, voilà, peut-être que cette tendance se confirmerait-elle et que justement, elle s'emparerait de ces problématiques qui, comme l'a dit Pierre, comme tu l'as dit Tom, comme on le dit, touchent évidemment de très nombreux pays. Alors effectivement, là spécifiquement aujourd'hui on parle de l'agent orange, mais effectivement sur plein d'autres notions, et notamment les mines, mais pas que. Alors, je propose que pour cette fois-ci on s'arrête là. En se disant à bientôt pour évidemment suivre tout ceci, notamment au mois d'août, mais peut-être déjà avant, ou en tout cas on va continuer de parler de cela. Nous, on va vous faire passer quelques liens effectivement, parce que en Suisse, eh bien, on est, comme on l'a dit, c'est un sujet de discussion, et qu'on a en face, eh bien, des coalitions qui émergent, des convergences qui émergent pour se battre, et que je pense que plus on est nombreux, plus on sera fort pour se battre contre ces écocides. Voudrais-tu, pour en terminer, nous rappeler les sites internet, de quelle manière est-ce qu'on peut approcher votre collectif et s'informer sur ce que vous dénoncez, et puis peut-être si tu avais un appel à lancer encore, et bien pour que des personnes vous rejoignent, en tout cas qu'elles restent en alerte, et bien à toi la parole.
Un grand merci à vous pour nous avoir invité une deuxième fois pour parler de la l'orange, c'est important, pour avoir accès à toutes nos informations, toutes nos news. Vous pouvez aller effectivement sur notre site vietnamdioxine.org et puis aller sur les réseaux sociaux, on est plutôt très actifs, notamment sur Facebook où vous tapez collectif Vietnam Dioxine, sur Instagram où on est aussi présent, ou sur Twitter. Et puis vous pouvez aussi nous rejoindre. On a des personnes qui sont en France, mais qui sont aussi à l'étranger. Et si notamment il y a des personnes soit de la diaspora vietnamienne en Suisse, ou alors des personnes qui sont intéressées par faire vivre ce drame de l'agent orange en Suisse, vous pouvez aussi nous rejoindre en nous envoyant un mail à contact@vietnamdioxine.org et vous serez les bienvenus, surtout que là on veut faire donc un événement qui soit international, on a déjà des gens qui sont en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, et vous êtes les bienvenus, et on n'est jamais trop pour sensibiliser sur ce drame-là.
Écoute, je te remercie beaucoup, l'appel est lancé. Et puis, de ton côté, n'hésite pas à saluer Trintonia également de notre part, et puis vraiment à l'assurer de notre soutien indéfectible.
Trintonia disait, elle s'est fait torturer durant la guerre du Vietnam, elle pensait mourir, alors elle a déjà connu bien pire. Mais effectivement, ce combat pour elle, c'est quand même pas forcément évident, parce que à l'époque, elle avait pas le choix. Là, elle a quand même fait le choix de s'investir dans cette lutte. Les entreprises en face ont été aussi véhémentes, aussi cyniques que certains des ennemis. Donc nous, on lâchera rien et puis on continuera.
Très bien, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Tom.